Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs.
Cette maison d'édition a une devise. Du travail, c'est bien. Du travail sérieux, c'est mieux.
Nous nous occupons de créer des structures nouvelles. Nous laissons les écrivains en faire des chefs-d'œuvre ou des navets.
Si le gag n'apparaît qu'en fin d'exécution, alors là, c'est un vrai plaisir.
C'est vous dire que l'histoire sera simple, mais qu'elle ne va pas être facile à inventer.
Par la bande. Épisode 10, Crazy Cat de Georges Perriman. Au départ, il n'y a qu'un chat dans une famille, le Dingbat Family, la série d'alors d'Perriman. Puis celle-ci est rebaptisée The Family Upstairs, et presque en même temps, le chat connaît quelques aventures dans une bande complémentaire située en dessous. Il n'y a d'abord que deux protagonistes sans nom, le chat donc, et une souris, bientôt rejoint par un chien, d'abord appelé Bullpup, puis, devenant gardien de la paix, Office à Pup. Dans l'une de ses mini-aventures, la souris en vient à désigner le chat par l'expression Crazy Cat. Crazy et Cat, écrit avec un K. Dès lors, le chat ne sera plus appelé que comme cela, mais mis entre guillemets, comme pour rappeler que ce n'est là qu'une citation, et que ça ne serait donc pas là le vrai nom du chat. Plus tard, on apprendra aussi le nom de la souris, Ignat Mouse. Les histoires d'alors sont des gags simples et rapides, mais ils attirent l'attention, et le 28 octobre 1913, Crazy Cat devient un strip indépendant. Car les rapports entre ces trois bestioles sont à l'opposé de ce qu'ils ont coutume d'être. Le chat ne pourchasse pas la souris ni ne la tourmente, il en est amoureux. La souris ne fuit pas le chat, elle le traque et le persécute. Le chien ne poursuit pas le chat, il le protège. Par contre, il en a appris la souris et cherche souvent à l'attraper. À ce strip, auquel s'ajoutera à partir du 23 avril 1916, les plans... Ah, je reprends. À ce strip s'ajoutera à partir du 23 avril 1916 les planches du dimanche. Et la série se poursuivra ainsi jusqu'à la mort de l'auteur en 1944. L'argument de la grande majorité des gags, tant des strips que des planches du dimanche, est des plus simples. La souris n'a qu'une obsession, balancer des briques à la tête du chat. Le chien n'a qu'une volonté, empêcher la souris de balancer des briques à la tête du chat. Et le chat n'a qu'un désir, que la souris lui balance des briques à la tête. À partir de ce schéma triangulaire très simple, des décennies durant, Perriman construit la plupart de ses intrigues, à tel point que nombre de ceux qui ne connaissent que peu Crazy Cat pensent qu'il n'y est question que de ça. Ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, l'histoire est donc peu ou prou la même. Tous les jours, Ignat s'invente des stratagèmes pour pouvoir lancer sa brique à la tête du chat. Tous les jours, Office à Pup tente de l'en empêcher et parfois même réussit. Et tous les jours, ou presque, la souris finit en prison. Tout l'art d'Perriman est essentiellement un art de la variation, voire de la fugue, et celui-ci déploie des trésors d'imagination pour sans cesse se renouveler. Le chat, d'abord quasi muet, développe rapidement une langue foisonnante et des plus singulières. Elle associe à l'anglais plusieurs langues et dialectes comme le mexicain, le yiddish, le navarro, le français et quelques autres langages vernaculaires ou argotiques. Le sens y est souvent quelque peu bousculé, rendu incertain et mouvant, proliférant, plus proche d'une parole poétique que d'un moyen de communication. Le sabir du chat a quelque chose d'étrange et il accompagne l'indétermination générale qui règne dans le petit monde du Coconino, cette région désertique de l'Arizona où est censée se dérouler la série. L'indétermination la plus troublante et qui a fait couler pas mal d'encre est l'indétermination du sexe du chat, dont on ne sait trop s'il est mâle ou femelle. Tantôt désigné par « her », tantôt par « he », cette ambiguïté ne sera jamais levée. Au jeune Frank Capra qui lui demandait ce qu'il en était, Perriman répondit que lui-même n'en savait rien. Peu importe, car, comme déjà dit, peu de choses à Coconino sont stables et bien définies. L'espace lui-même est l'objet d'une transformation continue, d'une case à l'autre, le décor change, sans cesse, quand bien même les personnages ne bougent pas. C'est aussi vrai pour le temps. Il arrive que d'une image à l'autre, on passe du jour à la nuit, et inversement, alors même que l'action ne dure qu'un instant. Sans parler de la mise en page, dont les cases sont parfois flottantes, et où il peut même n'y avoir pas de case du tout. J'ai déjà fait remarquer que le nom de Crazy Cat s'écrivait entre guillemets, c'est également vrai pour tous les noms propres, de personnes comme de lieux, et aussi pour certains objets, la brique, la prison, le bâton et autres. C'est là une façon de déréaliser les choses et de dire que ce n'est pas exactement à ça que nous avons affaire. Les personnages ne seraient donc pas assurés de leur nom, les lieux désignés ne seraient pas exactement cela, et les objets seraient aussi autre chose que ce que leur dénomination laisse entendre. Coconino est un petit monde absurde et loufoque où les choses se répètent tout en se déplaçant et où les protagonistes ont parfois conscience d'être dans une bande qui s'appelle Crazy Cat. Dans la planche du 25 septembre 1938, Ignace est en prison dès la première case et Crazy, voyant cela, se dit qu'il y a quelque chose d'anormal parce que la prison n'apparaît d'habitude que dans la dernière image. Il va donc trouver Officer Pup, lui demande « Saviez-vous qu'Ignace est en prison au début et non à la fin ? Étiez-vous au courant ?» L'ayant enfermé moi-même, je suis bien placé pour le savoir. Je l'ai arrêté aujourd'hui pour la brique qu'il aurait pu vous lancer demain. Ah, c'est donc pour la brique qu'il ne me lancera pas aujourd'hui et pour celle qu'il ne m'a pas encore lancée demain. Je croyais que c'était pour la brique qu'il m'avait lancée hier. Voilà. Dans l'épisode 11, je vous parlerai de Blackbird de Pierre Morel. Au revoir et à merci.
Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs.
Cette maison d'édition a une devise. Du travail, c'est bien. Du travail sérieux, c'est mieux.
Nous nous occupons de créer des structures nouvelles. Nous laissons les écrivains en faire des chefs-d'œuvre ou des navets.
Si le gag n'apparaît qu'en fin d'exécution, alors là, c'est un vrai plaisir.